Plus qu'on continue la suite sur la mission, Dieu nous implique dans sa mission, nous implique dans son œuvre, et c'est une chose formidable. Et on avait vu les dernières fois, comme on l'a déjà vu justement, qu'il est indispensable que nous accomplissions notre mission dans le contexte d'une foi visible, vivant, modelée dans l'Église locale. C'est ce qu'on voyait, on avait vu la dernière fois, dans la famille, dans l'Église locale. Il y a un témoignage qui se vit en action. Il y a un témoignage qui se vit sur ce que Dieu nous demande de vivre l'Évangile. Pas seulement que d'en parler, mais l'Évangile se vit. Et on voyait aussi précédemment, avant ça, que finalement, il y a aussi, pas finalement, mais au tout début, il y a cette mission-là qui est globale. Une mission que Dieu nous implique à participer sur une mission universelle, si je peux dire. Que Paul, par exemple, nous donnait un exemple d'implantation d'église. On devrait avoir cette aspiration-là, ces prières-là, ce désir que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu, prenne de l'expansion et qu'il grandisse. Et il grandit, mais qu'on s'implique dans ça. Et le moyen d'action, ou je peux dire le terrain que Dieu nous confie, évidemment, est notre famille et notre église locale. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Notre famille, notre église locale doivent refléter la splendeur de l'Évangile et notre vie, et être riche en bonnes œuvres aussi. On va aller à une étape plus loin, si je peux dire, dans la mission, qui est nos proches. Disons notre évangélisation personnelle. On parlait de la mission mondiale, après ça on parle de la mission dans nos familles ou de notre église locale, puis notre mission personnelle face aux gens avec qui on est en relation. Dieu nous implique dans la possibilité de communiquer l'Évangile. Et si on voyait la dernière fois que l'Évangile est communiqué préalablement dans un mode de vie conforme à l'Évangile, c'est nécessaire pour que les gens soient intéressés et attirés par l'Évangile. Je vais faire une petite parenthèse en utilisant une doctrine qui est la bibliologie. Je dis bibliologie, mais c'est peut-être pas vraiment le sens approprié. J'ai utilisé le thème de la révélation de Dieu. De quelle façon Dieu se révèle à nous? De quelle façon Dieu s'est révélé à vous? Par sa parole? OK. Évidemment. La nature. On vient de dire les deux grandes sources, si je peux dire, que Dieu utilise pour se révéler. La révélation générale, qui est la nature, puis la révélation spéciale. Pourquoi Dieu se révèle d'une façon générale dans les Écritures? Pourquoi Dieu utilise ce moyen-là pour se révéler? Qu'est-ce que vous pensez? OK, pour qu'on puisse venir à la connaissance de son existence. OK, quoi d'autre? Pourquoi Dieu utilise la création pour se révéler, Yvette? Oui. Oui. Alors, il utilise ce que tu dis, c'est les Écritures, puis ça demeure. OK, parfait. On prend la révélation spéciale, les Écritures, on revient dans une minute. En ce qui concerne la révélation générale, pourquoi Dieu se révèle dans la nature? Pourquoi Dieu a choisi de se révéler dans la nature, Jean-Pierre? Montrer sa puissance, absolument. Quoi d'autre, Christina? Oui. Oui. Alors, c'est disponible à tous, absolument. Richard. Oui. C'est ça. Parce qu'ils sont devant la révélation de Dieu, ils sont devant un Dieu, et ils peuvent voir la puissance éternelle, sa divinité. Et qu'est-ce que j'oublie? Hein? Il dit trois choses. Hein? Mais c'est Romains 1 qu'on est en train de citer. Bref, les hommes sont devant la création, puis sont devant, finalement, le Créateur, l'architecte là, qui a créé tout cela. C'est-tu complet, ça? La révélation générale, c'est complet. Dans quel sens? Oui. Oui. Oui, absolument. Absolument. C'est complet. Dans quelle mesure? Ils sont inexcusables. Les Écritures sont claires, là. Il n'y a pas personne qui va pouvoir s'excuser de dire « Moi, j'ai jamais vu Dieu. » Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il y avait... Hugo Étier, exactement, qui parlait justement de la révélation et puis qui disait « Ces gens-là qui vont enseigner l'évolution sont des menteurs. » Et je suis d'accord absolument avec ce qu'il dit. Parce que ce que Romains 1 dit, c'est que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété qui garde la vérité captive. Ça veut dire qu'ils connaissent la vérité, mais ils la gardent captive. Puis ce qu'ils font faire à place, c'est véhiculer le mensonge pour justifier leur pensée. J'étais entièrement d'accord avec ce qu'il disait. Et alors, il n'y a personne qui est inexcusable de ça. Dans quelle mesure que ça, c'est complet, si je peux dire, la révélation générale? 100%? Que, oui, vas-y, Céline. Oui. Oui. Il manque. Oui. Ça crie haut et fort que Dieu existe. Et oui, Serge. Oui. C'est ça. Et ce message-là, tu le tires de où? Si toi, tu es un messager, le messager que tu vas porter aux hommes, tu le tires d'où? OK? Oui. 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 Oui, OK. 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 OK, exactement. Et pourquoi je voulais utiliser ce domaine-là? C'est que notre évangélisation va en quelque sorte ressembler un peu à ça. On parlait de notre vie dans l'Évangile, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on a une vie en conformité qui témoigne nos bonnes œuvres, de notre relation avec Dieu. Mais à un moment donné, il doit y avoir des paroles clair et intentionnel et dirigé sur la personne de Jésus-Christ. Si quelqu'un arrive, par exemple, ici, puis il dit, je voudrais être membre parmi vous, avec vous, dans votre église, et puis nous communique son témoignage, puis nous dit, moi, j'ai reconnu que Dieu existe à travers la nature, mais c'est très bien. Et là, on va lui dire, mais dans ce cas-là, on aimerait te communiquer la suite du message précis du message que Dieu a pour toi, qui est Jésus-Christ, mort, ressuscité pour toi. Oui, Renan. C'est ça. Oui. Oui. Oui, absolument. Absolument. Quand que, je ne sais pas si c'est votre témoignage, peut-être quelques-uns d'entre vous, ça pourrait être votre témoignage, mais si vous avez réalisé l'existence d'un Dieu à travers la révélation générale, ça va susciter en vous plein de questions, plein de recherches que vous allez vouloir aller pousser un peu plus loin pour c'est qui ce Dieu-là pour connaître particulièrement. Et ces questions-là vont vous amener, et c'est nécessaire que ça vous amène, à la révélation spéciale, qui est les Écritures. Et c'est sur cette base-là que c'est nécessaire aussi de communiquer l'Évangile. Je crois qu'il y a un parallèle qu'on peut faire, là, j'ai vu ta main, Christian, je crois qu'il y a un parallèle qu'on peut faire. On va prendre un temps de prier et puis on va regarder les Écritures ensemble. Mais il y a un parallèle que l'on peut faire à la façon que Dieu se révèle à nous et à la façon aussi qu'on peut communiquer l'Évangile, c'est-à-dire que notre vie, notre témoignage en bonne œuvre, si je peux dire, notre vie associée à l'Évangile est une bonne chose. Elle est nécessaire et il doit y avoir aussi une expression spéciale du message de Dieu pour nos proches. Christina. Oui. 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 Je pourrais dire que oui. J'ai pas voulu pousser plus loin nécessairement la réflexion sur les moyens de révélation que Dieu utilise. On aurait pu parler, par exemple, dans les Écritures, on voit des songes. On voit des théophanies, on voit des anges qui viennent. Effectivement, l'Esprit parle à nos cœurs. Et puis, si on généralise deux blocs importants qui sont encore présents aujourd'hui et évidents et pour tous, c'est la révélation générale, qui est la création, la révélation spéciale, qui est les Écritures. Mais je dirais que oui, effectivement, il y a d'autres moyens que Dieu a utilisés pour se révéler. L'Esprit... Encore là, on pourrait pousser la réflexion plus loin. Je ne veux pas nécessairement aller trop loin parce que je veux avancer dans quelque chose, mais ce que j'allais dire, c'est que l'Esprit, Jésus disait, « Je vais vous envoyer l'Esprit, il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. » Alors, l'Esprit a un rôle de convaincre, d'utiliser, je crois, les choses que Dieu s'est manifesté, s'est révélé, et l'Esprit va faire en sorte que, par exemple, les hommes qui ne le connaissent pas, va tourner les yeux des hommes vers ces choses-là pour les convaincre. Vers Jésus, par exemple, vers la nature. Et puis, alors l'Esprit va être un peu comme un agent qui conduit vers la révélation. Est-ce que l'Esprit va apporter une nouvelle révélation spécifique à l'exclusion de la révélation générale et spéciale? Je ne penserais pas. Mais si vous me permettez, je ferme la parenthèse là. Et puis, on va tourner dans Colossiens. Je veux qu'on prie avant que Dieu... Que Dieu nous conduise. Je ne l'avais pas déjà fait, hein? On n'a pas déjà prié. Non, OK, mais prions. Ça va être bon. Ça va être bon. Seigneur, on vient devant toi pour se courber devant toi, Seigneur. C'est toi qu'on veut écouter. C'est ta parole qu'on veut entendre. Seigneur, on croit que tu nous engages dans ta mission, que tu nous engages dans ton œuvre. Et on veut avoir cette disposition de cœur ce soir, Seigneur, d'esprit, pour écouter ce que tu as à nous dire, pour nous encourager, pour nous motiver, Seigneur, à faire d'une façon adéquate cette évangélisation, cette espérance que tu nous as donnée et qu'on le communique d'une façon efficace aussi. Seigneur, viens nous parler à chacun d'entre nous, viens nous utiliser. Partout où ce qu'on va, Seigneur, que tu nous donnes que d'être des lumières qui sont efficaces. C'est dans le nom de ton Fils qu'on te prie. Amen. OK, je vous invite à tourner dans Colossiens. Dans le présent volet, on va examiner justement dans Colossiens 4, 2 à 6. On voit qu'il s'agit d'un passage clé des lettres de Paul visant à nous aider à savoir comment partager notre foi avec les gens du dehors. Ce passage va nous faire voir combien Paul avait à cœur la mission et désirait que cet accent sur la bonne nouvelle trouve sa place dans les conversations de tous les jours. L'Évangile trouve sa place dans les conversations de tous les jours. Juste avant qu'on commence à lire, juste vous citer Romains 10, 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler? » s'il n'y a personne qui prêche. C'est un peu ça le thème ce soir qu'on va voir. Dieu veut nous utiliser pour parler. Dieu veut nous utiliser pour communiquer l'Évangile et il va le faire. Il va nous utiliser. OK, un volontaire qui voudrait lire les versets 2 à 6. J'aimerais juste faire le contexte, si je peux dire, dans lequel on va lire. Là. Le contexte de la lettre aux Colossiens est particulièrement révélateur. Ce passage fait immédiatement suite à un des textes de la famille. Par exemple, si vous regardez à partir de 3:18, il va parler aux femmes, aux maris, aux enfants, aux pères, aux serviteurs, aux maîtres aussi. Et on avait vu la dernière fois, justement dans un autre texte parallèle dans Tite, que l'Évangile se vit justement dans nos relations comme ça, dans nos familles, dans notre église locale. Et là, on arrive dans une autre section où Paul apporte cette exhortation adressée à l'église de Colosse et donne la perspective de la mission universelle. Puis le point ici à retenir est que Paul s'attendait à ce que les églises participent avec lui au progrès mondial de l'Évangile. Que les églises aient une implication dans la mission. Dans la mission, oui, de leur localité, mais plus large aussi. Un volontaire qui veut lire les versets 2 à 6. Mélissa, lis-nous ça fort, s'il te plaît. OK. C'est quoi que Paul est en train de nous dire? C'est quoi que Dieu est en train de nous dire? Premièrement, dans quoi? Comment est-ce qu'il commence? De prier. Persévérer dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Ça veut dire quoi, ça, dans le contexte de la mission? Et je pense qu'on peut le placer dans le contexte de la mission aussi à cause de la suite des versets qu'il nous est donné. Pourquoi est-ce que Paul il nous encourage à faire ça? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de persévérer dans la prière et d'y veiller avec action de grâce? Quelle est l'utilité? OK? Pour que Dieu ouvre une porte pour la parole? Absolument. Quoi d'autre? Oui. Pour qu'on soit continuellement en communion avec lui. Quoi d'autre aussi? C'est quoi l'importance de la prière dans la mission? C'est Dieu qui agit? C'est son œuvre, c'est son action, absolument. Danny, tu avais levé la main, je pense? Oui, à cause de la reconnaissance qu'on a aussi envers lui, là, ce cœur devant lui aussi. Oui, Gabriel, après ça, Jean-Pierre. Oui. 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 Oui, c'est ça, d'une dépendance envers lui. Absolument, absolument. Jean-Pierre. Oui. Oui, c'est ça, absolument. Ça témoigne justement qu'on est dépendant de lui, que c'est lui qui va faire son œuvre. Absolument. De quelle façon est-ce que Paul attendait des Colossiens qu'ils prennent part à son ministère, même s'il n'était pas là avec eux? De quelle façon est-ce que Paul il dit « Je vous sollicite dans mon ministère? » dans sa mission, dans la mission de Dieu finalement. De quelle façon est-ce qu'il les sollicite? De prier pour lui. Oui, regardez verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Paul y demande aux Colossiens, priez pour moi, pour que Dieu ouvre une porte, et puis que j'aie l'occasion d'annoncer la parole, d'annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et de le faire connaître comme je dois en parler. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des oppositions, qu'il y ait de l'opposition face à l'Évangile? Mais absolument. C'est ça, absolument. Pourquoi est-ce qu'on va prier dans ce cas-là, dans notre évangélisation, si on veut prier? Des fois, on prie souvent pour nos contacts, mais Paul les prie aussi pour que l'ouverture de l'accueil de l'Évangile, si je peux dire, ou l'ouverture de pouvoir exposer justement l'Évangile pour qu'il soit accueilli, c'est ça son désir. C'est de ça comme ça qu'il sollicite aussi les Colossiens à faire connaître, comme je dois en parler aussi. Absolument qu'il y a de l'opposition. Et c'est nécessaire que de prier. Dieu nous dit prier avec persévérance, veillez avec action de grâce, prier pour la mission aussi plus large que ce que l'on a. Je crois qu'il est bon pour notre évangélisation, comme pour plusieurs des aspects de notre assemblée, d'avoir une perspective plus grande que notre sein, plus grande que notre communauté. C'est-à-dire qu'évidemment, on doit avoir ces prières-là, cette implication-là dans notre communauté. Mais quand on voit plus grand cette mission-là auquel Dieu veut nous impliquer, comme ce que l'on fait d'ailleurs, par exemple, on a un budget missionnaire, on soutient des missionnaires dans le monde, on a plusieurs façons, on est en train de soutenir à travers l'offrande d'action de grâce différentes choses. Et ça, c'est une bonne chose pour une assemblée que de dire, nous, en tant qu'assemblée, on veut soutenir la mission plus large qu'en notre sein. Et Paul, évidemment, revient encore à ce désir-là. Impliquez-vous avec moi dans la mission mondiale, si je peux dire. Mais là, il va encourager les Colossiens d'une façon très spécifique, très individuelle peut-être même, à la mission qu'eux, ils prennent part. On prend part à la mission mondiale, on prend part à la mission de notre communauté, mais Dieu vous confie une mission aussi individuellement, à chacun d'entre nous, à l'endroit où vous êtes. Dieu va vous utiliser et Dieu veut vous utiliser. Et regardez verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire quoi, se conduire avec sagesse envers les gens du dehors? C'est drôle parce qu'on avait une question qui ressemblait à ça un peu dimanche dernier, qu'on répondait aux questions. Mais ça veut dire quoi, ça, se conduire avec sagesse envers les gens du dehors, dans la perspective de notre mission, de notre évangélisation personnelle? C'est cela. Notre témoignage? Oui. Oui. Oui, absolument. Se conduire avec sagesse envers les gens du dehors. Ça voulait dire quoi pour Paul de racheter le temps? On en avait parlé aussi justement dernièrement. Ça veut dire quoi de racheter le temps? Saisir les occasions, exactement. Dans notre mission individuelle d'évangéliser, de partager ce que Dieu nous communique, ça veut dire quoi concrètement d'avoir de la sagesse envers les gens du dehors? C'est qui premièrement les gens du dehors? C'est les incroyants. Puis on a à se conduire avec sagesse avec ces gens-là et de saisir les occasions. Ça veut dire quoi dans notre évangélisation, ça? Que de se conduire avec sagesse puis de saisir les occasions. C'est ça que Paul est en train de dire, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Concrètement, ça veut dire quoi dans notre évangélisation? Vous allez dire, c'est évident, on faut saisir les occasions. Ah, Ouais. 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 Ouais, absolument. Absolument, c'est bien. Oui, Christina. Ouais. Absolument. Et d'avoir la perspective que ces gens-là ont un urgent besoin de connaître Dieu. Dieu nous demande de se conduire avec sagesse. Littéralement, le mot conduire ici, on pourrait dire vivre sa vie au quotidien. Dans notre évangélisation personnelle, on devrait évangéliser au quotidien. On devrait avoir cette façon d'évangéliser au quotidien. Par notre marche sage parmi les gens du dehors et de saisir les occasions. Comment vous faites pour discerner une occasion qui vous passe en dessous du nez? Comment vous faites pour savoir que c'est une occasion? Peut-être que là, la personne ne va pas vous dire Jésus, mettons. T'sais, il ne va pas vous dire péché. Mais comment vous allez faire pour voir une occasion qui se passe devant vous puis vous allez la saisir? Paul? Oui. 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 OK. OK. Oui, Christina, tu avais levé la main tantôt? Ouais. Comment ça se fait qu'on a toutes les réponses une fois que l'occasion est passée? Hein? L'occasion est passée. Ah, j'aurais dû dire ça. Ah, j'aurais dû faire ça. Ah, j'aurais dû. Hein? Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir, cette occasion-là? Hein, Dieu, il dit, quand on vit notre vie au quotidien, qu'on ait une marche parmi les gens du dehors qui témoignent de l'Évangile. Je disais la dernière fois, l'Évangile n'est pas seulement un message, est un mode de vie aussi. Ça devrait être un mode de vie pour nous, l'Évangile. Mais il dit, rachetez le temps. Saisissez les occasions. Et c'est vraiment dans la perspective, dans la marche parmi les gens du dehors, qu'on saisit les occasions. Quelles étaient donc les occasions à saisir? Bien, elles consistaient en la vie elle-même. La vie de tous les jours parmi ceux qui ne croient pas en Jésus. Ils devaient user de sagesse dans leur vie, de chaque jour parmi les non-croyants, voyant que chaque relation est une occasion, peut-être de pouvoir témoigner l'Évangile, chaque relation que Dieu place autour de nous est peut-être une occasion de conduire quelqu'un à l'Évangile. Mais de quelle façon? C'est toujours là la question. De quelle façon? Comment se prendre? On a tout le temps, on va continuer. Gardez un doigt dans Colossiens, puis tournez dans un texte qui est cité quelques reprises de différentes façons, 2 Timothée 4. Quelqu'un veut lire les versets 1 à 4? Oui, Richard. OK? Par application. OK? Parce que le contexte ici, Paul s'adresse à un pasteur dans son église et prêche la parole en toute occasion, insiste, favorable ou non, quelles que soient les occasions. Par application dans nos vies personnelles à chacun d'entre nous, ça veut dire quoi ça? Des fois, on va utiliser ce texte-là pour parler de l'Évangile. Et puis, comment vous le voyez? On ne travaillera pas longtemps. Ouais. 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 Pas Paul, mais Timothée allait enseigner dans son assemblée, en toutes sortes d'occasions, les Écritures. Pour nous qui ne sommes pas nécessairement, parlons au sens général, là, si on n'est pas nécessairement des pasteurs dans la vie de tous les jours, puis que Dieu nous a quand même confié les Écritures, ça veut dire quoi de partager les Écritures? Parce qu'il dit, à un moment donné, il va venir un temps où les hommes ne vont plus supporter la saine doctrine, vont avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se retourneront vers des flammes. Est-ce que c'est un texte qui nous justifie que c'est un bon texte pour pouvoir donner des coups de Bible aux gens, pour pouvoir dire, regarde, c'est une occasion qui n'est pas favorable nécessairement, je vais quand même t'évangéliser jusqu'à temps que tu rentres parce que c'est ça que Dieu me dit. C'est ça? Non. Notre évangélisation ne devrait pas ressembler à ça. Et ça serait, je crois, à l'encontre de ce que Dieu vient de nous dire, de se comporter avec sagesse avec les gens du dehors. Et je ne crois pas que c'est d'utiliser les Écritures et de frapper sur les gens, même si l'occasion n'est pas favorable. Et on va continuer d'insister puis d'insister. Et je crois que le contexte d'occasion favorable et d'occasion défavorable, il y a des situations et des circonstances heureuses comme des circonstances malheureuses. Mais qu'en toutes circonstances, les Écritures sont là pour venir marquer le temps, le point sur nos vies et apporter la vérité sur nos vies. Et ça ne veut pas dire que parce que le texte ne dit pas, si l'occasion n'est pas favorable à partager l'Évangile, fais-le quand même. C'est pas ça. Mais Dieu nous encourage, comme on vient de lire, de quand même, je crois que par application, Dieu nous demande quand même de partager les Écritures avec les gens qui sont près de nous. Bref, on revient dans Colossiens, si vous voulez bien. On va continuer avec le verset 6. Il y a deux choses clés. On vient de voir la première, qui est la conduite. Dans notre évangélisation, ça commence avec la marche. Comment est-ce qu'on se comporte avec les gens du dehors, puis qu'on saisit les occasions? Puis il y a une autre chose aussi, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quel mot vous frappe dans ce verset-là? Jean-Pierre, excuse. Ouais. 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 Ouais, OK. Merci Jean-Pierre. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce verset-là? On voyait deux choses. Premier verset, il parle de notre conduite parmi les gens du dehors. Puis la deuxième chose, de nos paroles. Souvenez-vous, on commençait avec ça en introduction tantôt. Notre conduite est un peu l'équivalent de cette révélation-là générale de notre témoignage en bonne œuvre de l'Évangile dans nos vies. Puis quand nos paroles viennent, par exemple, comme le verset 6, ça devient beaucoup plus spécifique. Les deux vont en conformité, la marche et les paroles. C'est nécessaire pour notre évangélisation. Qu'est-ce qui vous frappe dans le verset 6? Assaisonner de sel, ça veut dire quoi ça? Ouais, ça donne du goût, ça goûte différent. Comment vous faites ça? Ouais. 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 Ouais, absolument. Quoi d'autre aussi? Ça veut dire quoi un message, une parole assaisonnée de sel? Oui, François. Ça, c'est quelque chose qui te frappe dans le verset? Pourquoi? Ouais. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, et je pense qu'il y a un gros morceau là. Je voulais qu'on voit justement cette parole accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, mais il y a vraiment un thème clé pour partager l'Évangile aux gens autour de nous, que de savoir comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire quoi ça? L'Évangile, c'est un message. Est-ce que l'Évangile se transforme? Est-ce que l'Évangile... Il y a différents évangiles? Non? Comment ça se transmet différemment d'une personne à l'autre? À comment? De prendre la personne là où elle est rendue, Dani? La même chose, exactement. Oui, Sonia? Ouais. 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 Ouais, c'est bon, selon adapté selon la réalité des gens. Oui, Carole, tu avais levé la main aussi. Ouais. Ouais. Et ça permet de savoir justement, elle est où la personne? Elle en est où dans sa foi, si je peux dire, face à la reconnaissance du Dieu de la révélation générale et de la conduire plus précisément. Exactement. Et je pense que ça, c'est une autre question clé. Sur quoi la personne se questionne? Dieu, il nous dit, comportez-vous avec sagesse parmi les gens du dehors, puis saisissez les occasions, puis votre parole, elle est utile à répondre à chacun. Et elle se questionne sur quoi la personne. J'ai lu une citation que je trouvais bien intéressante. Laissez-moi juste voir. Les réponses aux questions qui ne sont pas soulevées ne connaissent pas d'accueil, pas un accueil très favorable. Il nous faut, en premier lieu, développer cette habileté très importante qui consiste à exploiter les circonstances à saisir pour savoir sur quoi la personne se questionne. Alors, de répondre à des questions qui n'ont pas été soulevées, ça peut apporter peut-être peu d'accueil. Mais sur quoi la personne se questionne? Un juif va se questionner différemment qu'un grec. Un homme va questionner peut-être différemment qu'une femme. Un enfant peut-être différemment d'un adulte. Puis notre évangile, c'est toujours le même évangile. Il y en a un seul évangile. Mais le moyen de véhiculer, je crois que Dieu nous demande de savoir afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Oui, allez-y, madame. Ouais. Ouais. C'est ça. Et ça devrait être notre marche parmi les gens du dehors, exactement. Où on prend soin, où on fait attention, on marche avec sagesse et on fait attention. 1 Pierre 3,15, gardez un doigt dans Colossiens. Quelqu'un qui veut lire 1 Pierre 3,15? OK, Gabriel. OK? Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pourquoi quelqu'un vous poserait cette question-là? Comment? Oui. Comment est-ce qu'il a été conduit à cette intrigue-là? Comment allez-vous marcher parmi les gens, parmi vos proches que vous évangélisez? Quelles paroles que vous allez utiliser pour que les gens en viennent à des questions, en viennent à être intrigués? Comprenez-vous ce que je veux dire? Comment allez-vous susciter cette intrigue-là pour que les gens viennent vous poser la question? C'est quoi l'espérance qui est en toi? Comment allez-vous faire ça? Ouais. 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 Alors exactement, ils vont voir justement notre vie. Quoi d'autre aussi, Serge? Il a vu de quoi? Il a vu de quoi? Ouais? C'est quoi ton problème? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Notre façon de vivre, notre façon de parler devrait amener les gens à être intrigués de ce qui se vit en nous, de l'espérance qui est en nous, que Paul vient de dire. Et pour ça, il faut premièrement sanctifier Christ dans nos cœurs, être fortement attaché au Seigneur de cœur à cœur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Je vous invite à revenir dans Colossiens. C'est exactement ça que Paul est en train de nous dire. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je fais une déclaration, OK? Dites-moi ce que vous en pensez. En tant que chrétien du 21e siècle, on emprunte souvent l'une ou l'autre des deux impasses suivantes face au témoignage, à témoigner l'Évangile. Mémoriser une présentation de l'Évangile sous forme de capsule et de rechercher les occasions propices à pouvoir livrer cette capsule-là, très spécifique et définie. Et la deuxième façon, de mettre tellement d'emphase sur la relation que nous ne nous risquons jamais à partager l'Évangile avec qui que ce soit, de peur peut-être de froisser la relation. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Croyez-vous que c'est deux impasses, effectivement, ou que Dieu utilise ces moyens-là? OK? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. C'est deux extrêmes. C'est ça. C'est quoi le problème comparativement à ce qu'on vient de lire dans les Écritures ici avec cette capsule-là, si je peux dire? Ouais. Exactement. On s'adapte pas. On a formulé un plan de match. Et ici, ce plan de match-là, l'occasion qu'on a imaginée dans nos têtes se présente jamais. On livrera jamais ce plan de match-là. Mais Dieu nous dit, saisissez les occasions et puis que vos paroles soient accompagnées de grâce, soient assaisonnées de sel et soyez prêts à répondre à chacun. Ça veut dire que le message, évidemment, ne change pas, mais qu'on est prêt à livrer l'Évangile d'une façon adaptée aux gens qui, selon leurs questions qu'on disait tantôt. Les relations, comme tu disais, Paul, c'est deux extrêmes. Si on veut présenter l'Évangile, mais à des gens avec qui on n'est jamais en relation, c'est malheureusement, et évidemment, je crois qu'on va être appelé, évidemment, à partager l'Évangile, des fois avec des gens qu'on ne reverra peut-être jamais, mais plus souvent qu'autrement, le marché qu'on dit, conduisez-vous, on disait tantôt littéralement dans notre vie au quotidien, nos relations que l'on a au quotidien, c'est avec ces gens-là que Dieu aussi veut qu'on partage notre foi. Bref, j'ai oublié la fin de ce que je voulais dire. Excusez-moi. C'est ça, on parlait de relations. Mais si on a cette relation-là, on la développe, puis à un moment donné, on devient tellement mal à l'aise d'intégrer l'Évangile là-dedans, parce que finalement, on ne l'a jamais annoncé, bien, on manque le coup aussi. On manque notre coup aussi. On va arrêter là pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Oui, Jean-Pierre. Oui, il est sauvé, hein, c'est bien. Gloire à Dieu, effectivement. Effectivement. Oui. Oui, c'est ça, absolument. Oui, Yvette, après ça, André. Je trouve ça compliqué à aller, hein? Effectivement. Mais est-ce qu'il y a des endroits auxquels elle a commencé? Elle a commencé avec... OK. Oui, je pense que c'est un très, très bon conseil que tu as donné. Effectivement. Par Jean. L'Évangile se comprend par des enfants. L'Évangile se comprend par des enfants. J'ai accepté le Seigneur, j'avais peut-être 6 ans à peu près. Et puis, j'ai compris l'Évangile là. Et alors, ça se comprend par des enfants, mais effectivement, je pense que c'est un bon conseil que tu as donné. Commencer par Jean. André. Brûle pour point. Ouais. Ouais. Ah oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Et si, exactement, et si on sanctifie Christ le Seigneur dans nos vies, si on a une espérance à laquelle on est attaché, puis on se fait demander de rendre compte de c'est quoi cette espérance-là, bien, on va être capable de la livrer facilement, comme tu dis, spontanément, comme ça, dans une occasion que l'on peut saisir, puisque elle est toujours actuelle, parce qu'on vit, on se conduit avec sagesse, on saisit les occasions, et nos paroles sont conduites aussi. Mais effectivement, comme tu dis, il y a des occasions qui se présentent à nous très spontanées, et puis il faut être prêt à les saisir au bon aussi. Mais l'évangélisation est des fois, on utilise l'évangélisation explosive, on sort dans les rues, on donne des traités, puis c'est une méthode très limitée, si je peux dire, d'évangélisation. C'en est une, puis Dieu va utiliser ça, puis c'est correct. Mais notre évangélisation, comme ce qu'on vient de lire dans les Écritures, c'est de se conduire avec sagesse parmi les gens du dehors, de saisir les occasions, puis d'avoir des paroles conformes et qui vont amener les gens à poser des questions, puis on va être prêt à leur répondre là où ils sont. Je crois que ça, c'est une évangélisation efficace dans les relations que Dieu nous confie à tous les jours. OK, on termine par la prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur pour cet évangile que tu nous as communiqué à chacun d'entre nous, par lequel on peut être sauvé. Seigneur, dépendamment de différentes années, Seigneur, de chacun d'entre nous, on est sauvé, on a ce privilège-là que de marcher avec toi, que de te suivre. Et Seigneur, donne-nous ces occasions, ouvre nos yeux et donne-nous, Seigneur, de se raffiner, si je peux dire, se conduire avec sagesse que l'on veut faire. Donne-nous de la sagesse, Seigneur, dans nos paroles aussi, et qu'on sache comment répondre, comment conduire les gens qui sont près de nous à te regarder, à voir, Seigneur, en toi le besoin d'être sauvés parce qu'ils sont perdus. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'on te prie ces choses. Amen.